France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse.
L'année dernière, exactement à la même époque, on croyait que c'était fini, que le virus était derrière nous. On n'a pas passé un mauvais été. Du coup, on est beaucoup resté en France, c'est sûr, mais personne n'aurait parié sur un confinement 2 et puis 3 avec couvre-feu dès l'automne. Cette année, on sait que c'est pas fini, on va beaucoup rester en France aussi comme l'an dernier, mais on sait aussi que le vaccin nous aide à avancer et peut même clore le chapitre et ça nous fait basculer dans tout autre chose. On est entré dans une obligation vaccinale qui ne porte pas son nom, qui est aussi la clé de notre liberté pour les uns, parfaitement liberticide au contraire, disent les autres. On nous a d'abord incité avec douceur à nous faire vacciner. D'ailleurs, on a beaucoup râlé sur le manque de doses et à juste titre. Maintenant qu'on a les doses, beaucoup d'entre nous ont attendu qu'on nous le demande très fort pour aller nous faire vacciner et même il a fallu nous menacer. Notre été de liberté est donc à la fois un été de liberté et aussi un été contraint, un été où il faudra montrer patte blanche et passe sanitaire parfois. Pensez à nous et aussi pensez aux autres, ne pas trop en parler, garder son calme. Quel drôle d'été nous avons devant nous, on est heureux d'en discuter avec vous. Jean Viard, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous, sociologue, directeur de recherche associé au CEVIPOF. Votre dernier ouvrage que j'ai là sous les yeux s'appelle « La révolution que l'on attendait est arrivée » aux éditions de l'Aube. Vous aimez discuter avec les auditeurs, ça tombe bien, ils vous le rendent bien, c'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Allez, c'est parti. Le premier, c'est vous, Stéphane. Bonsoir et bienvenue.
Ah, du chat, tout le monde. Oui, moi, j'appelle pour vous poser la question quand même d'exprimer mon petite colère de cette malhonnêteté intellectuelle depuis le début de la semaine qui dit, on entend partout que les gens sont revenus à la raison, que les gens ont compris qu'il fallait aller se vacciner et que nulle part il n'est noté tous ces gens qui en fait vont se vacciner là en précipitant parce que tout simplement ils ont peur de perdre leur travail ou alors ils ne peuvent plus aller voir un parent qui est dans un EHPAD ou etc. Et que donc pour eux le vaccin il est devenu obligatoire quoi. Et même si je vous adore moi à France Inter, je suis un peu en colère que vous n'ayez pas du tout évoqué cet aspect-là suite aux déclarations de monsieur Macron.
Bah alors voilà. On va le faire tout de suite et en même temps, sans vouloir vous contredire, Stéphane, je pense que cette contradiction-là, je pense à ce que disait Thomas Legrand ce matin, par exemple, dans son édito. Je pense qu'on n'était pas loin de ce que vous êtes en train de nous dire là. En tout cas, grâce à Jean Viard, vous allez peut-être avoir votre réponse. Jean Viard, qu'est-ce qui s'est passé selon vous, en effet? Est-ce que les gens sont allés, ceux qui sont allés d'ailleurs à la vaccination, contraints et forcés? Ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose? On est quand même en train de vivre une drôle de période.
Mais c'est sûr, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est le virus qui restreint notre liberté depuis 2 ans sur toute la planète. C'est quand même lui qui a commencé, si on peut dire, à nous obliger à nous enfermer, etc. Et à le faire tous partout. Et chaque fois, c'est une contrainte. Et chaque fois, on le vit mal. Et puis, chaque fois, on s'adapte parce qu'à un moment, on se sent protégé. Bon, là, c'est clair que face aux nouveaux variants, le gouvernement, le président a décidé de taper sur la table, pour dire les choses clairement. Ouais. Pourquoi faire? Il y a deux groupes de gens. Il y a ceux qui traînaient. En se disant bon, on le fera un jour, on va voir, etc. Bon, et ben ceux-là, ils vont le faire parce qu'ils sont pas opposés. Et puis il y a ceux effectivement qui sont très anti-vaccins. Ben là, je veux dire qu'à un moment, il faut rappeler une chose, on est un pays de droit, donc pour l'instant, ça n'a pas été voté au Parlement, donc c'est normal de contester, je dirais. De toute façon, on a toujours le droit de contester, on est en République. Mais ça veut dire qu'une fois que ça sera la loi, force reste à la loi. Donc quand ça sera voté au Parlement, ça sera la loi, donc ça sera le droit. Et d'ailleurs, les gens qui protestent le plus sont souvent issus de partis extrémistes sur les deux bords, parfois quelques gilets jaunes, je veux dire qu'ils sont plutôt des opposants politiques au droit. Donc il faut dire des choses comme ça, mais je comprends très bien qu'il y ait des gens qui résistent. Mais à un moment, on est là pour sauver des vies. Pour l'instant, il y a eu 10 à 15 millions de morts, sans doute beaucoup plus. En France, il y a eu un peu plus de 100 000 victimes. 110 000. Sur la planète, 110 000. Sur la planète, 10 à 15 millions. Donc, je veux dire, on est dans un processus mondial qui va durer longtemps.
Mais Jean-Pierre,
après,
qu'est-ce que
c'est la loi qui protège.
Qu'est-ce que ça nous dit de ce que nous sommes lorsque, au fond, l'incitation douce, qui était celle du départ, n'a visiblement pas fonctionné, ou en tout cas, pas assez fonctionné. On a l'impression que les gens commencent à s'agacer, effectivement, lorsque la menace est là. Qu'est-ce que ça dit de nous, quand même, quand il faut attendre qu'on nous engueule? Parce que c'est ça
qui s'est passé. C'est pas tellement de nous, c'est d'un nouveau variant qui va plus vite. Je veux dire, s'il n'y avait pas eu ce nouveau variant, en gros, on est en période sèche, donc chez nous, ce qui n'est pas vrai sur toute la planète, évidemment, en gros, on serait monté à 60-70% et puis petit à petit, les choses se seraient arrangées. Il se trouve qu'il y a un variant qui contre-attaque. Mmh. C'est pas la première fois. On a déjà, je veux dire, c'est le variant, le Delta. Moi, je suis pas spécialiste des variants, mais c'est lui qui est venu désorganiser le système, si vous voulez. Donc voilà. Et donc, du coup, effectivement, la réponse, elle est comme ça. Pourquoi? Faut dire les choses aussi. D'une part, parce que on a mis 500 milliards pour maintenir l'économie à flot en payant des salaires à des gens qui travaillaient pas ou en donnant de l'argent à des entreprises au bord de la faillite. À un moment, il y en a plus. Il faut aller, vous voyez, il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une forme d'urgence économique. Je trouve que c'est pas honteux de le dire, qui vient. Et puis, vous savez, la question quand même, c'est que plus les gens âgés sont vaccinés, plus les malades sont jeunes, tout simplement parce que les autres ne sont plus malades. Alors, il y a beaucoup moins de malades, mais forcément, je dirais les plus de 80 ans, par exemple, ils sont vaccinés à 80%, il y en a presque plus dans les hôpitaux. Bon, ça veut dire que de plus en plus, qu'on va voir le soir dans les médias, c'est des malades plus jeunes. Regardez aux États-Unis, ils disent qu'il y a des 12-18 ans, il y en a 22 millions qui ont eu la maladie, c'est pas souvent très grave chez eux, mais quand même. Donc, petit à petit, ça va paniquer les gens. Quoi. Ouais. Il faut aussi dire ça.
Je peux pas m'empêcher de constater que dans certains pays, on a offert des cadeaux, on a offert des repas, on a essayé d'autres biais. Nous, visiblement, celui qui marche, c'est celui de la carotte et du bâton. Et c'est ça qui m'intrigue, en fait.
Oui, mais ce qui a d'abord marché chez nous, c'est la gratuité. Je veux dire, on est un des rares pays où les tests sont gratuits, un des rares pays où le vaccin est gratuit. Donc, si vous voulez, d'abord, on a quand même sur la gratuité. Il faut quand même le rappeler, parce qu'il y a plein de pays où c'est payant. Et c'est relativement cher. Donc, si vous voulez, après, il y a des pays, effectivement, qui fonctionnent à l'économie. Nous, on considère que la santé est un bien public, donc c'est gratuit pour tout le monde, que vous ayez cotisé ou pas cotisé. Donc on peut pas motiver, je crois, si vous voulez, on peut pas comparer. Après, bien sûr, on entre dans une période électorale, le président a voulu affirmer son autorité, je veux dire, oui, aussi, je veux dire...
Bien sûr, il a fait de la politique, clairement.
C'est une décision politique, je veux dire. Madame Merkel en Allemagne, son problème était différent, elle avait un État plutôt faible et des régions fortes, mais elle a dû reprendre un peu de pouvoir à ces régions qui finalement étaient trop diffuse, le pouvoir était trop faible. Si vous voulez. Chaque pays s'adapte. Nous, j'allais dire, la Ve République le fait à sa manière. Voilà, après, on peut trouver que ce modèle est un peu présidentiel et aristocratique, je suis pas entièrement contre, mais sur le fond de la question, il est quand même comment on accélère pour sauver des vies. Faut pas écouter que les gens qui râlent. Mmh. Je veux dire, la majorité des gens, et là, il y a 19 000, j'ai vu les chiffres à peu près, personne qui a manifesté, c'est très bien, avant le vote au Parlement, ils manifestent, c'est tout à fait leur droit. Mmh. Mais attendez, il y a quand même 3 millions de personnes qui sont inscrites, donc faut aussi avoir quand même des rapports de force, quoi.
Martial, bonsoir.
Oui, bonsoir, madame.
On vous écoute, Martial. Merci
de prendre mon appel. Alors, écoutez, moi, je suis vacciné. Bon, le Johnson & Johnson.
Vous avez de la chance.
Pardon ?
Une seule fois, alors ?
Une seule fois,
ouais,
oui,
vous avez de la chance.
Avec la pharmacienne, parce que j'avais pas envie que ce soit le médecin. Parce que le médecin, depuis 2 ans, j'en ai vraiment... Mais alors, la claque, hein, vraiment, c'est trop dur. Alors, je veux vous dire, j'ai une colère rentrée. Simplement, moi, je pense que s'il faut montrer patte blanche à chaque fois pour prendre le train, pour prendre l'avion, le bateau, au restaurant, etc. Enfin, c'est la terreur. Enfin, le mot n'est pas trop fort. C'est-à-dire que le président a surfé sur la peur. Et moi, je pense que au niveau de notre devise, l'égalité est foulée, mais alors foulée, piétinée, comme ce n'est pas permis. Je pense que même un monarque n'aurait pas osé. Et franchement, je préférerais aujourd'hui être britannique que français. Mmh. Moi, j'ai honte d'être français avec un président qui se moque du peuple. Alors, je savais qu'à Rennes, en 2017, j'étais rien. Mais alors maintenant, je n'existe plus. C'est-à-dire qu'on divise les Français. Et normalement, selon la Constitution, le président doit réunir les Français. Or, il les divise. Mais c'est grave. C'est très grave. Il y a le pilier de certains régimes, c'est la peur. Mmh. Je pense que là, la démocratie en a pris un coup. Sachant que les députés vont s'aplatir devant Macron, c'est ça, on n'a plus personne pour nous défendre.
Il y aura un débat démocratique quand même. C'est le principe de la démocratie, Martial. Il y aura un débat devant l'Assemblée.
Mais le débat, on le connaît d'avance. On le connaît d'avance. C'est ça le problème. C'est un peu comme le vote non à la Constitution de 2005 qui a été piétiné. Vous voyez, c'est ça. C'est grave. Mais, écoutez, je suis enseignant, madame. je viens de prendre ma retraite. Bon, simplement, je dis que j'ai essayé de la pédagogie, d'essayer de tirer vers le haut, et là, franchement, on tire vers le bas. Et là, je ne comprends plus. Enfin, je comprends.
Eh bien, ouais. Merci beaucoup, Martial. On va poser la question à Jean Viard de ce qu'il pense de ce que vous dites. Moi, j'entends Jean Viard dans le discours de Martial. J'entends, il parle de colère rentrée, il parle de terreur, il parle de diviser. Il y en a plein des Martial, malgré tout. À un moment, il va falloir qu'on arrive à se parler tous ensemble. Moi, j'aimerais bien savoir si cet élan qui était le nôtre au début, qui faisait qu'on était ensemble, jusqu'à quel point, selon vous, il s'est complètement délité. Jusqu'à quel point sommes-nous aujourd'hui une société divisée entre les Martial et les autres, et peut-être encore d'autres encore, jusqu'à quel point cette colère-là est extrêmement vivace et peut-être dangereuse ?
Non mais, si vous voulez, d'abord, la comparaison avec l'Angleterre... Si
dangereuse pour nous, pour nous tous en tant que société, je voulais dire, il n'y a pas de...
On ne peut pas laisser dire, si monsieur rêve du modèle anglais, c'est son droit absolu, mm-hmm. mais le nombre de victimes par habitant est très supérieur. Donc il faut quand même faire attention
à ce qu'on dit, je veux
dire. C'est un chiffre,
oui,
je veux
absolument,
dire.
Voilà. Vous avez raison.
Donc je veux dire, voilà, je ne donne pas mon opinion, je dis, c'est très supérieur. Monsieur a le droit de préférer des dizaines de milliers de morts en plus, mais c'est un choix qu'il faut qu'il assume. Moi, à un moment, je veux dire les choses très clairement. Mm-hmm. Après, si vous voulez, il faut quand même rappeler qu'il y a 11 vaccins obligatoires et que c'est pas perçu quand vous avez un nourrisson, le vaccine, puis on vous fait des rappels, etc. C'est pas perçu comme un acte anti-républicain. C'est l'idée que le vaccin protège l'autre, ce qui est une idée fondamentale. Le vaccin, c'est pour casser les chaînes. Mm-hmm. C'est pas un vaccin pour soi, c'est un vaccin pour le groupe. Bon, c'est les deux. Donc ça, c'est important de le rappeler et dire effectivement que c'est le fond du débat. Après, effectivement, monsieur est en colère, il a tout à fait le droit. Visiblement, il est en colère depuis ce référendum, on n'a pas suivi les résultats, ce qui est d'ailleurs tout à fait, là-dessus, je le comprends tout à fait. Bon, et donc, si vous voulez, et c'est vrai que ça, j'ai pas la même colère que lui. Mais après, je crois que la société était très en colère avant, il y avait le mouvement des Gilets jaunes, qui au début a été très populaire. Après, c'était moins nombreux. Mais n'oublions pas qu'il était populaire, il n'y a pas que ceux qui manifestaient. Donc, la société était en colère. Bon, la société était en colère parce qu'on était à la fin d'un cycle. Moi, je dis des sociétés industrielles, etc. Il y avait partout monté des populismes, Trump, etc. Bon, on peut regarder l'Angleterre. Et au fond, partout, une partie des sociétés, c'était en révolte. En gros, les gens des grands périurbains, les milieux populaires, les gens des petites communes, les gens des lotissements. Bon, tous ces gens-là étaient en révolte parce qu'ils avaient l'impression que le monde était contre eux. Au départ, rappelez-vous, c'est les 80 km/h. Oui. Ils ont l'impression qu'on les a mis loin de la ville, etc. Donc, ils étaient en colère. Et puis, la pandémie, au fond, on a eu des protections imposées. On nous a un peu infantilisés, mais on l'a accepté. Les gens mettaient le masque d'une façon incroyable, etc. Même le vaccin, un Français sur deux est vacciné. En partie, un ou deux piqûres, mais s'il a fait une piqûre, il fera la deuxième. Donc, si vous voulez, ça veut dire qu'en gros, faut quand même pas oublier que la grande masse des gens est pour cette stratégie. Faut pas non plus renverser, tendances.
Ouais.
Voilà. Après, il y a tout ça. Après, c'est vrai que, comme toujours, on touche à votre corps pour protéger l'autre, et on peut très bien comprendre qu'il y ait des gens, disons, qui ont l'impression de toucher à leur libre arbitre. Je le comprends extrêmement bien. C'est le propre d'un groupe, si vous voulez. Propre des règles sur un groupe. Bien sûr.
Ce que j'essayais de vous dire, Jean-Pierre, tout à l'heure, c'est que c'est vrai qu'on a expérimenté, encore une fois, un véritable collectif. Alors, ça fait un an et demi maintenant, au moment de cette pandémie, il y avait quelque chose qui nous rassemblait. Ce collectif, il s'est délité, ce qui est d'ailleurs bien normal, j'imagine, dans la suite que les événements ont pris. Mais aujourd'hui, on a vraiment le sentiment qu'on est venu à un vrai chacun pour sa peau, en fait. Et que discours-là que vous dites, et qui est un discours réel, et qui dit « je me protège moi et je protège les autres », ce discours-là a beaucoup plus de mal à passer aujourd'hui avec le vaccin qu'il passait alors que nous n'en avions pas, ce qui me semble être un paradoxe incroyable, en fait.
Alors, c'est compliqué à évaluer, puisque 76%, il y a un seul sondage qui est sorti sur le discours de président, trouve que ce qu'il propose est rationnel et 50% des Français sont vaccinés. Donc je ne sais pas apprécier la part qui refuse. Après, il faut bien voir que la société est prise par une vague de changements. Mmh. Il y a 1 million de couples qui se sont séparés. Il y a à peu près 2,5 millions de Français qui ont déménagé. Mmh. Il y en a 2 millions qui ont décidé de changer de métier. Donc, la société bouge. Bon, on voit bien qu'il y a des tas d'endroits où les gens vont s'installer au bord de Loire, à une heure des grandes villes en train, pour dire les choses simplement.
Nous avons changé, comme vous dites sur votre livre.
Mais nous avons profondément changé. Mmh. On a tous été enfermés. On a été 5 milliards sur la Terre à s'enfermer pour, je dis avec humour, pour protéger les plus improductifs. productif. Mmh. Les anciens, les malades, les fragiles et les gros. Je peux le dire parce que je suis un peu lourd. Donc, si vous voulez, non, mais je le dis parce que sinon, ça serait agressif. Donc, jamais on a fait une chose aussi humaniste, au fond, dans un pays qu'on disait ne penser qu'à l'argent, ne penser qu'à la réussite sociale, etc. Et partout, en Chine, chez nous, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis. Donc, si vous voulez, et sauf les régimes populistes. Et ce sont en ce moment les populistes qui nous donnent des leçons sur la liberté. Moi, là-dessus, faut dire les choses. Les régimes populistes ont été nuls. Le premier taux de mortalité, c'est la Hongrie. Le deuxième, chez la Tchéco. Donc, je veux dire, je dis chez nous, parce qu'on prend toujours l'autre bout du monde. Les démocraties et les totalitaristes chinois ont été efficaces. Bon, c'est embêtant parce que c'est deux modèles très antagonistes. Donc, vous voyez. Donc, il faut dire des choses comme ça. Et quelque part, on a tous, là, on sort d'une grande maladie qui n'est pas terminée. Individuellement, on a été enfermés, on a modifié nos rapports aux autres, on a modifié nos rapports aux couples. 10% des couples ont été violents plutôt en défaveur des dames. Donc, je veux dire, tout ça, ça existe dans la société. Pourquoi? Ben, parce qu'on a vécu un événement immense. On l'a vécu avec des peurs. Nos enfants ont regardé des émissions sur la mort. Ils en sont complètement omnubilés. Je ne sais pas comment on va les sortir de ça. Les taux de suicide vont augmenter, etc. Les sociétés sont complètement bousculées, mais sur toute la planète. Et si vous voulez, ce qui est à la fois exceptionnel, c'est que c'est la première fois qu'on a un phénomène comme ça planétaire. Parce que quand il y avait des pandémies, il fallait des années pour que ça arrive d'un bout du monde à l'autre. On ne savait jamais que c'était le même virus. Quand Giono écrit sur le choléra à Manos, il ne savait pas très bien si ça venait de Chine. Donc nous, on l'a su en 3 mois. Et donc, on a là un événement mondial qui nous bouscule et qui nous remet en question le fait, le rapport à la nature. On a tous compris qu'on est un animal parmi les autres, si je peux me permettre, et que l'homme n'est pas au-dessus de la nature. On a les mêmes maladies, on a abîmé la nature et elle nous renvoie quelque chose en boomerang. Et puis, permettez-moi une dernière remarque, on est tous rentrés dans le monde numérique. Tout le monde, c'est là, on fait cette émission comme ça en numérique. Vous l'auriez jamais accepté il y a 2 ans, mais dans les familles, dans les entreprises, il y a 50% des travailleurs qui ont été en télétravail, il y en a 78% qui veulent continuer pour une partie. Donc, il se passe une immense vague de changements et avec des blessés, il y aura encore... Moi, en ce moment, ce qui m'inquiète, je ne vous cache pas, c'est la vague de suicide chez les adolescents.
Mais du coup, est-ce que ça veut dire que vous pensez que ceux qui disent non en ce moment, au fond d'eux, sont des réfractaires au changement, en fait? Est-ce que c'est ça? Est-ce que le non en creux, c'est ça qu'il dit?
Mais pas forcément des réfractaires au changement, je veux pas les agresser collectivement, mais si vous voulez, au fond, ils représentent des individus qui pensent d'abord à eux-mêmes, ils n'ont pas une pensée forcément collective, et ils se revendiquent souvent, on l'a bien vu tout à l'heure sur le référendum, pour le moins, dont l'utilité, effectivement, la suite a été pour le moins malheureuse, si vous voulez. Je me cache pas de pas être politiquement chez eux, je me suis présenté pour LRM aux élections, faut pas s'en cacher non plus, mais je suis pas honteux de l'avoir, de le faire. Je suis tout à fait très favorable à ces choses-là. Et donc, je crois qu'il faut chacun dire les choses comme elles sont aussi, d'où on vient, d'où on parle, c'est tout à fait légitime. Mais une fois qu'on a dit ça, effectivement, moi j'ai une vision d'un monde en plein bouleversement. Moi j'ai vu ce qu'a décidé la Commission européenne hier sur la fin des voitures en Europe et à essence. J'ai vu ce qu'on a décidé au niveau mondial, 15% de taxes sur les multinationales. Mais ça n'aurait été impossible il y a 2 ans. Donc si vous voulez, si on comprend pas qu'on est pris dans un maelstrom de changement, il faut essayer de l'accompagner, de le démocratiser, de faire que les plus faibles... Regardez en France, on a maintenu, puisque les salaires dans le privé a augmenté d'1%. Il y a eu des gens malheureux, pauvres, affamés, les étudiants qui ne pouvaient plus faire des gardes d'enfants, etc. Les quartiers populaires où le black a disparu. En France, on fait comme s'il n'y avait pas d'économie parallèle. Mais évidemment qu'il y a une économie parallèle. On a bien vu les gens qui venaient manger, les enfants qui ne mangeaient plus à l'école, puisque les écoles étaient fermées. Donc bien sûr qu'il y a des endroits où la pauvreté a augmenté. Mais ce sont pour l'essentiel des minorités. L'État a mis presque 500 milliards sur la table. C'est notre argent. C'est ça que j'essaie d'éclairer, c'est ce mouvement. Mais je comprends les gens qui protestent.
Et justement, vous parliez des entreprises notamment et de certaines difficultés. Je voudrais qu'on écoute Odile. Bonsoir Odile.
Bonsoir.
On vous écoute.
Oui, donc moi je suis vaccinée, mes parents le sont, mes enfants étudiants aussi. Et je voulais témoigner côté économique. Je suis depuis le mois de mars 2020 sur une cellule de crise d'aide aux petites entreprises. Et c'est vraiment dramatique ce qui se passe pour nombre d'entre elles. Donc j'habite en région toulousaine, donc une région très impactée. Aujourd'hui encore, j'ai eu au téléphone 5 ou 6 dirigeantes de toutes petites structures. Ce sont des entreprises de 8, 10 ou maximum 30 ou 40 personnes qui ont souffert terriblement malgré toutes les aides. Et pourtant, elles ont été vraiment bien aidées.
Ce que vous dites, c'est que malgré les aides, s'il y a une quatrième vague,
Elles ne vont pas s'en remettre. Nombre d'entre elles m'ont dit cet après-midi qu'elles ont été licenciées. un cinquième ou un quart de leur personnel. Elles n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir les réembaucher parce que c'est très difficile. Et moi, j'ai eu des chefs d'entreprise, des restaurateurs, par exemple, en pleurs au téléphone. Et c'est pas possible. Donc, c'est vraiment une question de civisme. Et on vit en collectivité, on ne vit pas seul dans notre coin. On ne peut pas faire autrement que de se faire vacciner pour limiter aussi un chômage qui, sinon, va être terrible et des faillites en cascade qui ne vont pas manquer d'arriver.
Et merci de, et merci de votre témoignage, Odile. Janviard, Odile parle de civisme. C'est pour ça que tout à l'heure, j'interrogeais le collectif. En fait, en me demandant encore une fois si on sortait de cette pandémie plus égoïste qu'on y rentrait, en fait.
Mais... Ben, c'est-à-dire que moi, je crois pas qu'on peut dire ça pour tout le monde, parce qu'en même temps, la solidarité des gens. Regardez le nombre d'immeubles, il y a des jeunes qui ont fait des courses pour les vieux, etc. On vous donne plein de petits exemples. C'est micro chaque fois, évidemment.
Oui. Mais c'était avant, c'était au début. C'était la pandémie d'avant, si je puis dire.
C'était la première pandémie.
Voilà. Mon interrogation moment, si avec voulez, ce qui se passe aujourd'hui et l'histoire du vaccin, c'est qu'on est passé dans une autre dimension. On entend un autre discours. On entend même des choses qui sont, vous avez raison, il y a évidemment pas que des contres, hein. Mais il y a une violence du discours, on va dire. Il y a une difficulté pour certains qui me semble largement supérieure à celle qu'on exprimait au moment du premier confinement quand on était enfermé. Et c'est cette différence-là que j'interroge, qui m'étonne et qui peut être parfois effrayante. Je pense aux mots qu'on utilise quand on a tous entendu ça, résister, dictature, enfin des choses qui sont extrêmement violentes. Qu'on n'entendait pas précédemment.
Un énorme travail des réseaux sociaux. D'ailleurs, aussi, en ce moment, la bataille, elle est autant d'expliquer que dans les réseaux sociaux, de faire des contre-arguments chaque fois, de répondre. Il y a des batailles
qu'il y a une
qui
dictature,
se font.
Etc. Je suis bien d'accord.
D'une part, et puis aussi expliquer les effets, les conséquences. Ouais. Tel vaccin est dur comme ça, etc. Et tout. C'est normal que les gens soient inquiets. Je veux dire, ça me semble tout à fait normal. Mais après, vous voyez, là où je suis en ce moment, j'ai discuté avec un hôtelier. Il me dit, il y a des gens qui ont annulé. Donc c'est pareil dans les spectacles. C'est-à-dire que les secteurs qui ont le plus souffert, c'est-à-dire la culture, l'hôtel-restauration pour aller très vite, et puis les secteurs comme le diesel, etc., qui avec cette pandémie ont vu leur disparition annoncée plus vite que prévu, et donc ils sont très légitimement inquiets parce qu'ils savent que du diesel, on ne va plus en fabriquer. Donc on est dans ces deux évolutions. Bon, et c'est clair que là, il y a des secteurs en difficulté. Il ne faut pas non plus exagérer, mais ces secteurs sont réels, il y a plein de petits commerces, des petits restos, on commence à voir quand on se promène, qui n'ont pas rouvert, etc. Donc il y a des petites entreprises qui vont se casser la figure. Pour le moment, en chiffres, il y en a moins que d'habitude. Et comme l'année dernière, on a aidé tout le monde, je dirais qu'on a un retard de dépôt de bilan, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire que l'année dernière, il y en a eu moins. Donc simplement, si on se remet à la moyenne, on va se retrouver avec un peu plus cette année. On n'est pas sur une vague de rupture totale. C'est pour ça qu'il faut aussi faire attention. Je veux dire, il y a des petites entreprises qui flottaient difficilement, qui vont tomber. Il y a des choses qui vont disparaître. Il y a des gens qui vont continuer à faire des click and collect. Il y a des libraires qui vont continuer à livrer des livres chez les gens. Vous voyez, il y a aussi une évolution du commerce, parce que on a pris l'habitude de la livraison. Moi, je crois que demain, la société, elle sera locale et livraison. Parce que le télétravail, c'est le travail livré à domicile, d'une certaine façon. Amazon, c'est 21 millions de Français qui l'utilisent. On peut critiquer le groupe parce qu'il paye pas ses impôts et tout, attendez. Mais le principe même de la livraison, je parle pas des livreurs de pizza, j'ai pas de chiffres, mais c'est de pizza ou d'autres choses. Mais le modèle aujourd'hui, de dire, moi, je me fais livrer beaucoup, je mène ma vie dans mon quartier, la ville d'un quart d'heure, les gens qui déménagent vers les bourgs, vous voyez, il y a tout ça qui est en train de bouger, voilà. Et je crois que si vous voulez, c'est vrai aussi qu'une des raisons, je pense, de l'intervention du président de la République, un peu forte, c'est justement pour essayer de sauver ces entreprises en difficulté, qui si effectivement on était obligé de les fermer, si on refermait la pandémie, si on redécidait qu'on va plus au bar et au restaurant parce qu'il y a une minorité qui veut pas se faire vacciner, au fond, on contraint aussi ceux qui sont vaccinés à mener une vie réduite, parce qu'il y en a qui ne veulent pas se vacciner. C'est tout le problème quand on vit dans un groupe, si vous voulez. À un moment, on peut pas être tous contents en même temps. Alors, soit on décide c'est la majorité qui est contente et la minorité, on la respecte, mais elle suit. Mais on est quand même un peu obligé d'avoir ce principe, sinon on s'en sort plus.
Allez,
mais vous savez, il y a des gens qui vont rester chez eux à la campagne, dans leur jardin, sans être vaccinés.
Oui,
c'est un choix, mais pour ceux qui travaillent, c'est pas possible.
Francis, vous êtes en Meurthe-et-Moselle, Francis. J'espère qu'il n'y a pas trop de pluie sur la figure. On vous écoute.
Si, bonjour, bonsoir à tous. Ici, il pleut énormément. On a des inondations.
Voilà.
Je ne suis pas vacciné, mon épouse n'est pas vaccinée, nos quatre enfants de 29 à 36 ans ne sont pas vaccinés, ils sont adultes et ils peuvent décider par eux-mêmes et ils ne sont pas vaccinés. Notamment un qui a travaillé au MIT à Boston après des études dans une grande école française, sur le séquençage des nanoparticules. Qui, si lui, vous lui parlez de vaccins ARN messager, il va pouvoir vous en parler pendant 6 heures. Et au bout de 6 heures, vous ne vous précipiterez pas. Vous vous précipiterez pour annuler le rendez-vous que vous avez pris.
En même temps, pardon Francis, hein, mais il y a aussi d'autres gens qui sont probablement tout aussi compétents que votre fils, voire qui travaillent dans ces domaines-là, qui sont aussi capables de parler de l'ARN message. Et c'était une parenthèse refermée, mais ça me paraissait quand même important de le dire. On vous écoute si vous avez une question.
Oui, moi je voulais juste témoigner sur ce qui se passe au Luxembourg. Alors on parle beaucoup des restaurants français. Je vous rappelle qu'après le premier confinement, on n'a quasiment pas eu de fermeture, en tout cas nettement moins que les années d'avant, avec un fonds de solidarité à 1500 euros. Là, le fonds de solidarité sur le deuxième confinement est passé à 10 000, voire jusqu'à 200 000 euros pour les gros établissements par mois. Il n'y aura pas du tout de fermeture. Je travaille dans le monde de la restauration. J'ai pas de restaurant qui se plaigne. Je n'ai pas de restaurant qui pleure. Je n'ai pas de restaurant. Voilà. Okay. Donc, il faut arrêter aussi un peu avec
ça. Moi, j'ai vu des restaurants fermés dans mon quartier, pardon, hein, excusez-moi, mais on a tous un vécu différent. Mais voilà.
Non, vous savez pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que jusque maintenant, le fonds de solidarité est plus intéressant pour certains restaurants que la réouverture. Mmh. Et vous verrez, dans un mois ou dans deux mois, on en reparlera. Mmh. Alors, au Luxembourg, comment ça se passe? Vous rentrez dans un restaurant, il n'y a pas besoin d'être vacciné. Vous allez à votre table en respectant les gestes barrières, masque, gel hydroalcoolique, et vous vous installez. Là, on vous demande si vous avez votre QR code. Si vous avez votre QR code, vous le montrez. Si vous n'avez pas de QR code, on vous amène un test qui est facturé de 1 à 2 euros suivant l'établissement, et vous faites votre test vous-même à table. Le résultat, vous l'avez en 5 minutes, un peu comme un test de grossesse, avec un réactif.
Je vois très bien ce que vous nous dites, Francis, mais ma question c'est, est-ce que vous avez... Moi, par exemple, tous les matins, je descends boire un café avant d'aller travailler. Est-ce que j'ai envie de ça tous les matins, avant d'aller travailler, le test antigénique en 2 minutes dans le nez, en fait, par exemple?
Non. Non, mais prenez les courbes. L'an dernier, on n'avait pas de vaccin, nous sommes d'accord. Il y a un an, on n'avait pas de vaccin. Mmh. Prenez les courbes de contamination, prenez les courbes d'hospitalisation. Il y a un an, c'était les mêmes. Donc,
il y a un variant qui est arrivé entre-temps. Le premier était britannique, le deuxième était variant Delta, Francis, et voici où nous en sommes.
Non, puis là, vous allez avoir le Epsilon qui vient de Californie, vous allez avoir le Lambda qui vient du Pérou.
Donc, j'ai du mal à comprendre la logique, excusez-moi, parce qu'on ne va pas faire un dialogue jusqu'entre vous et moi, mais j'ai un peu du mal à comprendre la logique
de ne pas se
vacciner parce que nous sommes envahis peu à peu par des variants différents. Mais je vous remercie d'avoir témoigné, Francis, et c'est important d'entendre aussi des gens comme vous sur l'antenne, on va pas juste rester juste vous et moi. Voyez, Jean Viard, cette discussion, moi j'ai l'impression qu'on l'a désormais, très souvent, partout, en famille, entre amis, dans nos entreprises et partout.
Non mais c'est un sujet violent, je pense que les gens s'engueulent là-dessus. Vous savez, on dit toujours les pas de famille, il faut parler ni politique ni sexe, sinon ça dérape. Il faudra pas parler vaccin non plus. Ouais. Ce qui est vrai, alors dans ce que dit Francis, il y a son regard positif sur l'économie, je pense qu'il a très largement raison, si vous voulez. Par voyez à Paris, par exemple, il y a plein d'hôtels qui sont pas ouverts, mais c'est parce qu'ils attendent que les touristes reviennent. Mmh. Parce que c'est clair qu'il nous manque quand même 90 millions de touristes étrangers à gros revenus. Donc forcément, il y a toute une partie qui a pas redémarré, et c'est vrai, c'est pas forcément des signes de faillite. Tant qu'il y a pour ça qu'il faut faire attention. Je crois pas qu'il y aura énormément de faillites pour le moment, telles que les choses sont dites, parce qu'il y a des plans de soutien absolument monumentaux dans tous les pays. Il suffit de regarder en Chine et aux États-Unis. Mmh. Je veux dire, qui sont partis avant nous. Donc, faut pas se dire ça. Après, la question du vaccin, la question, au fond, qu'on impose aux gens quelque chose, mais avec vitesse, parce que quand on est, finalement, on accepte. Il y a quelques pourcentages de Français qui ne veulent pas les vaccins, qui sont très contre pour des régions diverses. Bon, mais c'est une toute petite minorité, si vous voulez, hein. La plupart d'entre nous, dès qu'on a un bébé, on accepte qu'on nous le vaccine parce qu'on a trop peur qu'il lui arrive quelque chose. Donc là, un des grands sujets, il me semble, c'est que si on laisse les vaccins circuler, il y aura à chaque fois des variants. On est sur un monde, on est 9 milliards. C'est à cette échelle-là qu'il est le variant. Tant qu'il n'y a pas de variant vers les enfants, ça va aller. Mais si les variants évoluent, vous allez voir que la société, elle va exploser. Pour l'instant, je m'excuserai de vous le dire, mais les personnes âgées qui sont mortes, elles ont perdu quelques mois, quelques années, et souvent, ça a été horrible. Ils ont été tout seuls, on n'a pas pu les voir, etc. Je vous assure que si ça attaque les enfants, on va pas le faire. À un moment, il faut dire aux gens, je suis désolé, il faut qu'on arrête la création de nouveaux variants, c'est beaucoup trop dangereux. Alors, je comprends toutes les oppositions, elles sont profondément respectables, mais si vous voulez, d'ailleurs, je vous rappelle quand même que le pass sanitaire, c'est soit le vaccin, soit un test négatif, soit avoir été malade avec le virus depuis moins de 6 mois. Mmh. Et donc, effectivement, on considère que si vous avez été malade, vous êtes protégé comme ancien malade. Faut aussi dire ça, parce que si vous voulez, faut pas, c'est pas exactement une obligation. Mais à terme, on va aller probablement vers l'obligation. Je veux dire, mais moi, après,
ça s'appelle, honnêtement, après...
Oui, mais c'est pas complètement. Vous n'êtes pas obligé d'aller au restaurant, vous n'êtes pas obligé d'aller au café, vous n'êtes pas obligé d'aller au théâtre. Je vous rappelle quand même que la plupart des gens ne vont jamais au théâtre, vont quasiment très peu au café.
C'est vrai, disons qu'on lui a mis un coup social.
On a mis un coup d'autorité qu'on peut d'autant moins apprécier quand on soutient pas le président de la République, on trouve qu'il nous envahit, mais il est clair qu'il a fait une oppression d'autorité. L'État a rappelé son autorité, c'est-à-dire son droit à imposer des règles sanitaires, ce qui est effectivement son droit. Mais je comprends que ça contraigne certaines personnes. Mais vous savez, tout ça, on va l'oublier. Mmh. Je veux dire qu'on est dans un tel changement de monde que, rappelez-vous, depuis 2 ans, les discussions qu'on a chaque fois. L'autre jour, je crois qu'il y a c'était le président qui disait, ça te rappelle les débats sur la ceinture obligatoire dans les voitures.
Bien sûr,
quoi.
Ouais.
Et puis maintenant, on trouve ça normal. Et je veux dire, ça existe plus, les gens qui la mettent pas. Donc, c'est un peu du même. Bien sûr, c'est une contrainte. Oui, ça restreint ma liberté, mais ça sauve. Alors, entre les deux, petit à petit, moi, je pense qu'il faut simplement qu'une décision comme ça, les gens y réfléchissent. Vous allez voir que petit à petit, comme les autres fois, ça va s'arranger. Pourquoi? Parce qu'on a envie de vivre et qu'on a envie que les gens qu'on aime vivent et qu'on est en train de comprendre que le monde se transforme. Puis, en plus, on est en été, donc là, on a un peu envie de penser à autre chose, de se demander si on va pouvoir aller en vacances ou pas. Je vous rappelle quand même que il y a que la moitié des Français qui partent en vacances.
Absolument.
Donc, faut pas oublier ça. Il y a ceux qui, la moitié, ne partent pas. Vous voyez, donc il y a aussi tout ça. C'est une des grandes questions des gens. Voilà, je crois qu'il faut... Mais il faut éclairer la vie. Il faut toujours dire, c'est le vaccin qui brime d'abord notre liberté. Et ça,
c'est le virus qui brime notre liberté.
C'est le virus. Non, excusez-moi, je suis lamentable.
Pouf,
c'est
le virus. On va leur faire.
Et ce virus, si vous voulez, il va effectivement continuer à tuer. Il est en train d'attaquer en Inde, il est en train d'attaquer. Il faut pas se regarder trop le nombril. Regardons le monde. On est à peine en train de fabriquer des vaccins pour les pays du Sud. Et c'est ça la vraie urgence. C'est de piquer la, si je peux dire, de piquer l'Afrique et de piquer l'Inde. Ça, c'est des enjeux monstrueux.
Voici, j'en viens à une autre problématique qui nous intéresse dans notre vivre ensemble en ce moment. C'est celle de Dominique. Bonsoir, Dominique.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, donc moi je suis bénévole. Bonsoir tout le monde d'abord. Oui, je suis bénévole dans un cinéma associatif. Et là, on se voit imposer un rôle de police pour lequel, je dirais, on n'est pas formé. Moi, pour être à l'aise, je vous dis de suite, moi je suis vacciné. Et pour moi, le problème, c'est pas pour ou contre la vaccination, c'est la façon dont la vaccination se met en place. C'est-à-dire on l'impose sans l'assumer. On a un gouvernement qui assume pas ses choix. Je dis, mais pourquoi on le rend pas obligatoire? Et à ce moment-là, c'est la police qui fait son rôle de police. Là, aujourd'hui, on nous demande, en tant que citoyen bénévole non formé, d'avoir un rôle de police.
En même temps,
ça s'approche de la milice. Moi, ça me fait peur. Elle est où, la République, quoi? Moi, j'ai l'impression que tout fout le camp et on ne s'en rend pas compte. Parce que demain, comment ça va se passer quand on va contrôler des gens qui rentrent dans un cinéma? Pour être sûr que ce soit bien eux, il va falloir demander la carte d'identité. Mais au nom de quoi? Au nom de quoi? Et dans la République, c'est la police qui est censée faire appliquer la loi.
Alors, même si le vaccin était obligatoire, Dominique, je pense qu'il pourrait pas y avoir un policier derrière chaque cinéma, etc. Mais le fait que vous soyez ceux qui demandaient, et qui donc, par exemple, je vais vous le demander, Franco, quand vous verrez arriver quelqu'un, quand les cinémas seront soumis à passe sanitaire, quand vous verrez arriver quelqu'un qui n'a pas son passe sanitaire, qui ne peut pas prouver positif ou négatif, qu'est-ce que vous allez faire, Dominique, vous? Est-ce que vous le savez déjà dans votre cinéma?
Nous,
vous allez laisser passer?
Nous, on risque de fermer le cinéma, parce que les bénévoles ne veulent pas assumer ce rôle-là.
Ou donc, vous ne laissez pas passer, mais vous fermez le ciné, en fait.
Ah oui,
pour l'instant, vous en êtes là, dans votre réflexion.
Parce que la personne, si le vaccin est obligatoire, je veux dire, on contrôle, comme on contrôle une identité, on contrôle si la personne a son pass, son truc, si elle est vaccinée. Mais pas spécialement au cinéma, pas spécialement au bar. Parce que là, le faisant comme ça, on donne la responsabilité à des gens, c'est pas eux qui ont pris la décision. C'est Emmanuel Macron, l'autre soir, qui a annoncé ça, mais il ne les assume pas. Et ça, c'est grave. On est en République. C'est à l'État à assumer son rôle.
Merci Dominique, merci beaucoup. Jean Viard, c'est la première question qui est venue lorsqu'on a parlé ici et partout d'ailleurs d'avoir à présenter un pass vaccinal, notamment dans les restos, dans les cinés, etc. La première chose qui est venue, c'est: est-ce que c'est vraiment à nous d'assumer ce rôle-là? Est-ce que ça pose pas un souci, ça?
Si, mais bien sûr, tout le monde n'a pas des gardes de sécurité comme en bas de la maison de la radio qui va faire le boulot à votre place. Absolument. Je suis d'accord avec vous. Non, mais bien sûr. Mais c'est vrai depuis le début de la pandémie. Vous pouviez pas entrer sans un masque dans un commerce. Qui c'est qui le vérifiait? C'était le commerçant, je veux dire. Le problème, c'est qu'on n'a jamais vécu une pandémie mondiale comme ça. Donc, j'aime bien qu'on me dise l'État doit faire. L'État, il court partout. Il a le terrorisme en même temps. Il a des attentats, etc. Je veux dire. Bon, donc, j'entends bien. Je comprends ça. Effectivement, que c'est pénible de vérifier, de se retrouver en position de policier, c'est pas du tout pour dénoncer la police, mais c'est pas le métier qu'on a tous choisi, donc voilà, tout ça est vrai. Oui, on est dans une période tellement exceptionnelle qu'on nous demande des attitudes qui sont insupportables et qui restreignent nos libertés, mais comme on nous a déjà restreint les libertés avec les attentats, le terrorisme, Vigipirate, etc., on est dans une période de nacelle, du sentiment de restreindre de nos libertés, et c'est inquiétant, je veux dire. Et donc, d'ailleurs, une des grandes questions, ça va être après, comment on va se retrouver nos libertés, toutes, parce que vous savez, chaque fois, en général, c'est souvent on en perd un peu dans ces affaires. Hein. À la fin, il y a toujours un petit bout qu'on vous enlève. Mais en même temps, vous savez, je vous dis, dans 5 ans, dans 10 ans, quand vous aurez la grippe, à mon avis, vous mettrez un masque pour aller dans la rue. Ce qu'on fait déjà en Asie. Rappelez-vous, il y a quelques années, quand on voyait un Japonais ou un Chinois à Paris avec un masque, presque on avait l'impression qu'il nous injuriait. On se dit, mais qu'est-ce qu'il a peur de nous? Qu'est-ce qu'on va lui transmettre comme maladie? Alors que lui, il le faisait en disant, je veux pas les rendre malades. Mais nous, on le vivait presque comme une mise à distance en disant, avec ces Occidentaux, c'est pas très
mal. Après, la crainte, moins ça que, puisqu'on a réussi à mettre un vaccin sur un QR code, pourquoi, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre sur un QR code et, jusqu'où pourrions-nous aller?
Et on sait que les Chinois vous contrôlent, etc. On entre dans une société de contrôle numérique. Il y aura un enjeu énorme pour le réguler et ne pas être soumis. Je suis d'accord sur ça. Mais là, si vous voulez, on est dans une urgence où, effectivement, on apprend à se servir de certaines choses qui peuvent tout à fait servir dans de mauvaises mains. Donc, la bataille pour les libertés, elle va être très très forte dans les années qui viennent, ça, je suis sûr.
Richard, bonsoir. C'est vous le dernier, Richard. Promettez-moi d'être rapide, mais on est content de vous avoir.
Je sais pas si je vais pouvoir, je vais essayer, donc je vais abréger. Moi, je voulais intervenir parce que je comprends pas, mais sincèrement, j'arrive pas à comprendre les réticences des soignants, et des soignantes, bien sûr, surtout d'ailleurs, alors qu'elles ont été données pendant l'épidémie, avant, après et encore maintenant, pour protéger, pour aider, pour sauver. Et là, j'ai manifesté contre les lois qui ont été prises que je considère comme liberticides, mais on va pas s'étendre là-dessus maintenant, mais pour dire que je suis quand même, je défends les libertés, mais là, moi, j'ai tout, mon épouse est en EHPAD. Je me suis battu pour me faire vacciner. Je suis actuellement rendu, j'ai fait faire mon 68e test PCR ce matin. Bien que je sois vacciné, que mon épouse soit vaccinée. Parce que
parce qu'ils n'ont pas ouvert les portes de l'EHPAD encore.
Voilà, enfin, elles sont ouvertes, ça a été allégé. Et vous voyez, je discutais là avec un responsable aujourd'hui qui me disait, on comptait rendre les visites complètement libres, mais avec ce variant qui arrive, eh ben certainement qu'on va continuer. Donc, c'est très compliqué, mais sincèrement, je veux pas les culpabiliser, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils sont si réticents à se faire vacciner.
Merci beaucoup. Merci, pardonnez-moi Richard de vous couper, mais on devrait déjà avoir lancé la pub. Je voudrais que Jean-Viard réponde quand même et en guise de conclusion à ce que vient de nous dire Richard.
Non mais juste un mot, d'abord j'entends très bien ce qu'il dit, après c'est pas tout le monde médical qui freine, d'ailleurs vous regardez les médecins sont presque tous vaccinés, au fond on a partout les mêmes questions, les milieux plus éduqués, plus informés qui passent leur temps à regarder les médias se sont vraiment informés, et puis il y a des gens qui sont beaucoup moins informés parce qu'ils s'informent moins, parce qu'ils lisent pas la presse, etc. et qui ont plus peur. Moi je crois que là-dedans vous savez, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'explications, les campagnes de com' sont pas forcément à la hauteur, faut pas non plus toujours renvoyer les gens, il faut dire communiquer davantage, et je finirai en disant une chose, c'est dans ma région, il y avait des affiches très sympathiques de couples qui s'embrassaient en disant le vaccin peut avoir de bons effets. Il faut aussi communiquer dans ce sens-là.
Voilà, embrassez-vous. Merci beaucoup, Jean-Viard. Merci à tous aussi pour vos très nombreuses questions. Je voudrais aussi remercier de l'autre côté de la vitre, Loïc Frapsos, Clément Berman et Kevin Pelot, parce que c'est justice. Je vous embrasse les garçons, à la réalisation Hélène Biziou et Fred Milano ce soir. Merci à Mélissa Stadelman, à Nathalie Poitvin, à Amel Meyer, à Adèle Domas, à Marie-Claude Pinson, à la petite Zoé qui est en quarantaine. Merci pour cette saison. Je vous souhaite un bel été à tous. Le téléphone sonne, il reste ouvert tout l'été.